Et nous venons de chanter plusieurs beaux cantiques. Et nous avons chanté « Dieu est le soutien de mon cœur ». Nous avons chanté « Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur ». Nous avons encore chanté « Mon cœur t'adore ». Je sais pas, il y avait le mot clé « cœur ». Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai choisi les cantiques dans cet ordre-là. Ce sont de beaux cantiques que j'aime bien. Et je voudrais vous poser une question. Nos cœurs, justement, sont-ils attachés aujourd'hui à Dieu? Alors là, c'est une question, chacun en soi dit
oh oui, quand même. Hein.
Et là, dans ce cas-là, j'ai une deuxième question plus difficile. Nos cœurs sont-ils toujours attachés à Dieu? Le sont-ils sans réserve, sans aucune réserve? Et ça, c'est une question un petit peu plus compliquée. Nos cœurs sont-ils toujours attachés à Dieu? Et le temps que vous réfléchissez à cette question, je vais juste vérifier que l'enregistrement a bien lancé. C'est bon. Cette seconde question d'introspection, nos cœurs sont-ils toujours attachés à Dieu? Je suis d'accord, elle est un peu rude pour commencer une prédication, elle est un peu violente. Mais vous allez voir que cette question va nous plonger dans l'histoire du peuple d'Israël et de Juda au moment du schisme, au moment où le royaume est séparé en deux, Israël au nord et Juda au sud. Et vous vous demandez le lien entre ma question initiale sur l'attachement de nos cœurs et l'histoire d'Israël et de Juda, vous allez voir le lien. C'est une époque, vous le savez, où les rois se succèdent les uns aux autres, tantôt au nord, tantôt au sud, et le verdict tombe implacablement à chaque fois. Tel roi fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tel roi fit ce qui est mal, tel roi fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, etc., etc. Et on peut faire des statistiques un peu pour voir quel royaume s'en sort le mieux. Ces longs récits que vous connaissez, si vous lisez les livres des rois, si vous connaissez le livre des chroniques, par exemple les chroniques, tous ces longs récits ont été compilés tous ensemble de rois pour montrer à quoi devait ressembler à minima le roi à venir, le grand roi à venir, le Messie. Et par comparaison, à quoi ressemblait l'être humain, le peuple. Donc c'est pour ça que tantôt certains rois, par leur obéissance, sont une figure du Christ à venir, et tantôt certains rois sont une figure de l'être humain dans ces ténèbres. Et au milieu de ces longs récits, dans le livre des chroniques, quelques rois sortent du lot, et c'est sur un que je voudrais m'arrêter ce matin avec vous, c'est le certain Amatsia. Alors ne me faites pas croire que vous le connaissiez. Tu le connais, Amatsia? Excellent. Bien sûr. Bon, Daniel connaissait Amatsia. Évidemment, c'est de Chroniques 25, évidemment. De Chroniques 25, Amatsia, c'est le fils de Joas, et on voit son histoire en 2 Chroniques 25, on va la lire. Et Amatsia, il sort du lot parce que c'est écrit, au verset 2, Amatsia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Et c'est sur cette petite précision du cœur d'Amatsia que je vous invite à se pencher ce matin. Et en effet, on va voir que le roi Amatsia a commencé sa vie en obéissant, à contre-cœur, mais il a obéi tout de même, mais que finalement, ça aboutit à une désobéissance flagrante vis-à-vis de l'Éternel. Et les deux parties de la vie d'Amatsia, les deux parties du règne d'Amatsia vont évidemment nous faire les deux parties de notre prédication. Vous l'aurez compris, là, au début, une obéissance à contre-cœur, un peu forcée, mais une obéissance malgré tout. Et deuxièmement, ça aboutit à une désobéissance flagrante. Et ma prière pour nous ce matin, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions tirer pour nous-mêmes quelques avertissements sur le risque d'avoir un cœur comme Amatsia, c'est-à-dire mitigé ou pas tout à fait attaché 100% à Dieu, et à l'inverse, donc quelques encouragements sur le fait d'avoir un cœur pleinement attaché à Dieu. Voilà ma prière pour nous ce matin. Je vois que Kevin est d'accord. Notre première partie donc, va donc s'attacher à la période d'Amatsia, où en apparence, Amatsia a obéi à Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et nous allons voir comment le fait que son cœur n'était pas tout à fait attaché à Dieu s'est traduit dans les choix et comment petit à petit, ça l'a mené à la désobéissance. C'est assez intéressant de voir comment petit à petit ça se fait. Les changements dans nos vies ne se font jamais, rarement du jour au lendemain. Mais très souvent, c'est des petites décisions qui arrivent à un trait de caractère. Alors je vous invite à lire 2 Chroniques 25 à partir du verset 2. On va lire seulement les versets 2 à 4 et on lira au fur et à mesure de l'avancée du récit. Amatsia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son propre péché. Voilà pour le début du règne d'Amatsia. On a environ à la louche 800 avant Jésus-Christ, pour avoir à peu près une période. Donc le règne d'Amatsia commence, il récupère le trône, il affermit sa propre royauté, et il fait tuer tous les serviteurs qui avaient assassiné son propre père, Joas. On voit ça le chapitre d'avant de Chroniques 24. Il nous est précisé ici qu'Amatsia a voulu respecter la loi de Moïse et qu'il a tué seulement les serviteurs qui avaient assassiné son père et non tous les enfants ou toute la généalogie des serviteurs. Et on voit ça qu'il le fait pour obéir à la loi de Moïse. Alors on peut se dire, et on se dit, très bien, on ne peut que se réjouir de cette obéissance de la part d'Amatsia qu'il manifeste au tout début de son règne. Et la première question que je vous pose, c'est que quand notre cœur est partagé, quand notre cœur n'est pas tout à fait attaché 100% à Dieu, comment cela se traduit? Cela se traduit souvent à de l'obéissance, mais souvent une obéissance dite partielle. On va obéir, mais pas complètement. Et Amatsia, on voit dans le texte parallèle à 2 Chroniques 25, il y a le même récit d'Amatsia, mais dans 2 Rois 14, donc on a des précisions différentes. Et on voit dans 2 Rois 14 qu'Amatsia, il a profité du début de son règne, donc pour... Il n'a pas profité du début de son règne pour, dans le pays, enlever tous les poteaux sacrés, toutes les idoles, toutes les traces d'idolâtrie qui pullulaient en Juda. De Rois 14, verset 4, « Les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. » Donc Amatsia, en même temps, il est très religieux, il fait une bonne décision de ne pas tuer tous les enfants des serviteurs, mais en même temps, il tolère encore dans son pays, l'idolâtrie dans son propre pays. Pourtant, l'idolâtrie, elle est clairement condamnée dans la loi de Moïse. Il dit vouloir obéir à la loi de Moïse, donc il obéit au 8e alinéa, 13e article, petit point, tu ne tueras pas les enfants des serviteurs. Mais en même temps, il désobéit à un des premiers des 10 commandements, tu n'auras pas d'idole. Donc on voit malheureusement que cette incohérence provient d'un cœur qui n'est pas tout à fait attaché à Dieu. Et donc il va obéir, mais de manière partielle. Et c'est un premier avertissement pour nous. Est-ce que j'obéis à Dieu? Oui. Est-ce que j'obéis partiellement à Dieu? C'est ça la question qui est intéressante. Je propose de continuer le règne d'Amatsia. Avec la lecture du verset 5 à 10, on va voir comment Amatsia se constitue une armée. Et on va en tirer aussi un enseignement. Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça, d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs des centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 3 tonnes d'argent. Mais un homme de Dieu vint auprès de lui et lui dit « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi !» Car l'Éternel n'est pas avec Israël et avec tous les fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est Dieu qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatsia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 3 tonnes d'argent que j'ai déjà donné à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « Mais l'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. On continuera la lecture plus tard. En attendant, on voit que vouloir se constituer une armée, quand on est roi, quand on doit protéger son pays il y avait beaucoup de guerres à l'époque, vouloir se constituer une armée, c'est pas une erreur, au contraire, c'est une preuve de sagesse de la part d'un roi tel Amatsia. Mais pourquoi ? Pourquoi donc aller chercher 100 000 mercenaires supplémentaires du côté d'Israël ? Il voit qu'il a 300 000 hommes, il se dit, ça va pas suffire, je vais aller embaucher 100 000 en plus. Pourquoi il veut atteindre 400 000 ? Est-ce que c'est pour avoir l'armée la plus grande que les rois précédents ? On voit que les rois précédents n'avaient jamais eu d'armée vraiment au-dessus de 300 000. Il lui dit, hey, je vais avoir le record du monde, je vais faire 400 000, je serai le premier, peut-être. Pourquoi aller chercher cette aide du côté d'Israël ? Alors qu'à cette époque, Israël, c'est pas un exemple de piété et de sainteté, hein, c'est vraiment la débauche. Pourquoi ? Pourquoi donc aller chercher une aide supplémentaire alors que le nom de l'Éternel suffit ? Penser que sa force réside dans le nombre de ses soldats est malheureusement une erreur classique des rois de l'Ancien Testament. Même le roi David, en 2 Samuel 24, on voit qu'il ne peut pas s'empêcher de faire un petit recensement de son armée pour se rassurer, pour avoir un ordre de grandeur de quelle est la force qu'il dispose. Est-ce qu'on ne fait pas pareil des fois ? Quand on regarde à nous-mêmes, à nos familles, à nos églises, on peut aimer pouvoir se rassurer à partir de je ne sais quoi. Ses qualités, sa sécurité, sa maison, sa famille, son conjoint, son CCP, j'en sais rien. On peut aimer vouloir se rassurer à partir d'autre chose que Dieu lui-même. Gédéon, lui, vous le connaissez, il n'avait pas besoin de 300 000 hommes pour faire fuir les Madianites. Il y a un an, Robert Newton nous avait fait une prédication dessus. Pas besoin de 300 000 hommes pour faire fuir les Madianites. Si l'Éternel est avec nous, 300 hommes suffisent amplement. Les psaumes nous disent que mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre sa confiance en l'homme. Mais Amatsia est tombé dans le panneau. Alors dans notre passage du jour, on voit qu'un homme de Dieu vient alerter au verset 7, Amatsia lui dit « Attention, ça ne sert à rien de te faire une armée, c'est l'Éternel qui décidera du combat. » Et on voit qu'Amatsia, il écoute l'homme de Dieu et il renvoie les 100 000 mercenaires qu'il avait fait tout juste venir, il les renvoie chez eux. Mais est-ce que vous avez vu ce que dit Amatsia ? Quelle est la réponse d'Amatsia à l'homme de Dieu ? Est-ce que vous avez vu son souci ? Est-ce que c'est de dire « Oh non, j'ai péché, zut, pardonne-moi Seigneur ?» Non, la première question c'est « Que faire des 3 tonnes d'or que j'ai déjà données ? » Que faire ? J'ai déjà payé les arts, entre guillemets, ou je ne peux plus faire marche arrière. L'homme de Dieu répond « Mais l'Éternel peut te donner bien plus que cela. » C'est bon, Amatsia est rassuré, peut-être qu'il aura il va récupérer un magot ou un gros montant plus tard, il est rassuré. Il est préoccupé plus par les conséquences, on va dire, que son changement de direction peut avoir, que par l'état de son cœur, où il se rend compte qu'il aurait péché envers Dieu, et là il est préoccupé par 3 tonnes d'argent. Zut, comment je vais faire ? J'ai déjà payé, je ne peux plus récupérer. Quand nous sommes repris par Dieu en notre cœur, quand nous nous rendons compte que sur tel ou tel sujet nous avons fait une erreur, quand nous sommes repris par un membre de notre église autour de nous qui nous dit « Cher Paul, là-dessus je pense que tu as mal fait », est-ce que nous sommes souciés de notre propre repentance ou de dire « Bah zut, alors si je change sur tel sujet, le problème c'est que ça va changer ça, 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 et j'ai pas trop envie. » Amatsia, il est coincé avec les problèmes de l'argent. Au lieu de regarder à sa propre repentance. Et chers frères et sœurs, si nous sommes convaincus, si vous êtes convaincus qu'il vous faut, que vous faites fausse route sur tel ou tel sujet, qu'il faut réajuster telle ou telle chose, préoccupons-nous de l'état de notre propre repentance, de notre propre obéissance, et non des conséquences que cela peut avoir. Dieu est plus grand que cela. Faisons confiance à Dieu, et s'il y a des conséquences à avoir, Dieu saura nous accompagner là-dedans. Et ce ne sont pas 3 tonnes d'argent qui doivent nous empêcher d'obéir à Dieu. Ce ne sont pas 3 tonnes d'argent qui doivent nous empêcher d'obéir à Dieu. Seigneur, je veux bien t'obéir, mais dans la mesure où ça ne change rien à ma situation. Vous l'avez déjà dit, cette prière, je veux bien t'obéir, mais surtout ne viens pas me bousculer pour autant. Troisième épisode du règne d'Amatsia, versets 11 à 13, la guerre. Il s'est fait une armée, Il a renvoyé les 100 000 mercenaires d'Israël. Et c'est la guerre. Versets 11 à 13, 2 Chroniques, versets 11 à 13. Amatsia prit courage et conduisit son peuple dans la vallée du sel. Il bâtit 10 000 habitants de Séir. Les Judéens en capturèrent 10 000 autres vivants. Ils les conduisirent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent et ils furent tous déchiquetés. Quant aux hommes de la troupe qu'Amatsia avait renvoyée pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, ils lancèrent une attaque contre les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3 000 personnes et emportèrent un grand butin. Alors Amatsia, il est revigoré d'avoir apparemment obéi à cet homme de Dieu. Il a renvoyé les 10 000 mercenaires, il est content, il a l'impression d'avoir obéi. Alors il prend courage et il part fièrement en guerre contre les Édomites, un peuple idolâtre, encore pire que Juda et Israël, qui se situait à peu près au sud de la mer Morte, pour avoir un peu l'idée en tête. Alors il se montre très cruel, il en tue 10 000, il en prend 10 000, il les met en haut d'un rocher, il les jette dans le précipice. Soit. En attendant, au-delà de cette guerre, on voit qu'Amatsia, il va commencer à payer la conséquence de ses choix précédents hasardeux. Il avait fait venir 100 000 hommes, finalement il les renvoie, il fait un peu le yo-yo, et on voit que les fameux mercenaires israélites, pendant qu'Amatsia est en train de faire la guerre chez les Édomites, ces 100 000 mercenaires finalement qui avaient été renvoyés, eh bien, ils se mettent à attaquer Juda, là où il n'y a plus aucun homme, plus aucun soldat pour protéger. Ils se vengent sur Juda et ils emportent le grand butin. Peut-être qu'ils auraient espéré avoir chez les Édomites. Finalement, ils n'ont pas de butin, donc ils se disent, allez, on va aller se payer nous-mêmes dans des villes de Juda. Quand on a un cœur comme Amatsia qui est attaché à Dieu, mais pas 100%, quand on fait des choix hasardeux, quand on navigue comme ça, on finit souvent, malheureusement, par payer les conséquences, d'une manière ou d'une autre, de ses propres choix. Je ne dis pas que c'est une punition de Dieu. Je ne dis pas que c'est une discipline spécifique de Dieu. Mais c'est souvent seulement de la logique. Si je ne suis pas, par exemple, pleinement attaché à Dieu, si je m'amuse, j'accepte de temps en temps de dire des petits mensonges, des arrangements avec la vérité. J'oublie de dire quelque chose qui m'arrange. Un jour ou l'autre, c'est logique, ça peut se retourner contre moi. C'est pas une punition spécifique, mais c'est une conséquence logique du fait que je prends une certaine habitude, et un moment ou un autre, ça peut me revenir dessus. C'est inévitable, il ne faut pas s'illusionner. Un jour ou l'autre, ça revient. C'est comme le boomerang. On peut le lancer, un jour ou l'autre, il revient. Et Amatsia, il commence à en faire les frais. Il n'a pas trop, il a eu pas confiance en son armée, il a fait venir des mercenaires, il les renvoie. Bref, il a fait un peu des choix hasardeux. Et là, on voit qu'il commence à subir des propres guerres sur son propre territoire à cause des choix précédents qu'il a fait. Il y a vraiment quelque chose de logique dans cela. Et si cette première partie du règne avait révélé une obéissance de la part d'Amatsia, certes partielle, la fin de son règne, c'est l'escalade de la désobéissance. Une désobéissance flagrante de sa part. C'est terrible, et ça va être la deuxième partie. Mais là qu'on voit qu'on peut s'illusionner un temps sur l'état de notre propre cœur. On peut s'illusionner un temps, mais un jour ou l'autre, ça revient. Tout comme une mauvaise herbe dans le jardin, une mauvaise herbe, elle finit toujours par s'imposer. Il suffit qu'il y en ait une, tu pars en vacances, tu reviens. Ouf. Ceux qui ont un jardin le savent. Une mauvaise herbe finit toujours par l'emporter sur la pelouse initiale. Et une petite habitude que l'on prend finit toujours par forger notre caractère. Encore une fois, les changements dans nos vies se font rarement du jour au lendemain, mais c'est souvent une multitude de petites décisions. Et on voit que dans le cœur d'Amatsia, c'est une multitude de petits choix hasardeux qui conduit, on va le voir dans la deuxième partie, à une désobéissance flagrante. Et c'est triste. Donc je vous invite à lire 2 Chroniques 25, 14 à 17. Donc là, il est de retour du champ de bataille, Amatsia. Lorsqu'Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séir et en fit ses propres dieux. Amatsia se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia et il envoya un prophète qui lui dit, Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination ? Il parlait encore quand Amathia lui dit : Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi ? Retire-toi. Pourquoi devrait-on te frapper ? Le prophète se retira en disant : Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. Cette fois-ci, Amathia renvoie paître le prophète qui vient l'avertir. Cette fois-ci, il n'y a plus aucune écoute. Il l'envoie paître. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on voit qu'Amathia vient de battre les Édomites. Il vient de leur infliger une rouste et il prend leur dieu. Les mêmes dieux qui ont été incapables de le protéger, de protéger le peuple des Édomites, mais il en fait ses propres dieux. On sait que c'est une solution qui ne marche pas, mais il veut l'adopter quand même. C'est comme, là je vais m'adresser à Charles, quand il joue, et tu me regardes avec tes yeux comme ça, c'est exactement comme à la cour de récréation, il y a un match de foot entre deux équipes, il y a une équipe qui perd, je sais pas, 3-0, et là, je m'en souviens, moi quand je jouais à Stagiaire, je jouais au foot, c'est que là tous les garçons se disent, allez on va tous en attaquant, on veut mettre des buts pour rattraper notre retard, alors tu te retrouves dans une équipe où tu as 11 attaquants et plus aucun défenseur. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe rattraper son retard comme ça ? Non, on sait que ça marche pas, mais... on le fait quand même, et on se retrouve 11 dans la cage, et on s'en prend 10 autres dans l'autre sens. Je faisais partie de ceux qui essayaient de mettre un but, alors que... on sait que ça marche pas, mais on le fait quand même. On sait que ça marche pas. Et Amathia fait exactement ça. Les dieux en face ont été impuissants de protéger Édomites, et ben c'est pas grave, on les adopte. Qu'est-ce que les dieux d'Édomites ont en plus que le Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Rien. Psaume 113 nous dit « Qui est semblable à toi, ô Éternel ?» Et nous savons, nous pouvons confesser que personne n'est semblable à Dieu. Pourquoi Amathia a agi ainsi? Et c'est là qu'on voit, souvenez-vous le début. Qu'est-ce que Amathia n'avait oublié de faire au tout début? Il avait toléré des poteaux sacrés et des idoles. Et donc au final, on comprend qu'il s'est tendu lui-même le piège dans lequel il a fini par tomber. Une fois de plus, tout mauvais choix initial, un jour ou l'autre, a des conséquences. Et si on tolère des poteaux sacrés, des idoles, c'est pas surprenant qu'à la fin de sa vie, Amathia tombe lui-même dans le piège de l'idolâtrie. Celui qui joue avec le feu... Des fois, on s'amuse avec une allumette comme ça. La probabilité de finir avec le doigt cramé, elle est assez importante. Mais celui qui joue avec le feu, il finit par se brûler. Et il en est de même ici. Pour faire un parallèle plus concret, si on tolère en notre cœur des pensées, par exemple, d'amertume ou de rancœur envers quelqu'un dans l'église, parlons concrètement. Si je tolère... que régulièrement je critique en mon cœur telle ou telle personne. Je ne lutte pas contre cela. Même je nourris, tu vois, dans la voiture, on part, et puis, oh là, t'as vu un tel, il avait ci, il a fait ça, et puis Paul, je sais pas quoi. Si on tolère cela, même faiblement, un jour ou l'autre, c'est normal qu'on va arriver un jour avec un état de colère, on ne sait pas pourquoi, d'un coup il est important, on ne l'a pas vu venir, mais c'est normal, l'erreur initiale a été de tolérer progressivement de nourrir quelque chose dans notre cœur. Et un jour ou l'autre, on arrive à un état de fait, où ça y est, c'est trop tard, le mal est fait. Et là, on va se surprendre à dire des mots, des actes, une attitude, mais qui ne sont la conséquence logique de ce qui a commencé au début, en tolérant des poteaux sacrés et des idoles au sein de son propre pays. Et petit à petit, un jour ou l'autre, Amathia se prosterne lui-même devant ces fameuses idoles. Elle est là, l'erreur initiale. Évidemment, la désobéissance flagrante, elle est à la fin quand il adopte et le prophète reprend Amathia quand il adopte les poteaux sacrés. Mais je suis vraiment convaincu que l'erreur initiale est au tout début, quand on tolère en notre cœur des pensées, des critiques, de l'amertume, de la rancœur. Un jour ou l'autre, ça ressort. Je propose de lire un dernier passage dans 2 Chroniques, versets 17 à 22. Après avoir pris conseil, Amathia envoya dire à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, donc le roi qui est en roi en même temps que lui, mais non en Juda, mais en Israël. Il lui dit, allez, viens, affrontons-nous. Affrontons-nous. Joas, le roi d'Israël, fit dire à Matthias, le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille en mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Alors tu te dis que tu as battu les Édomites et ton cœur est rempli d'orgueil jusqu'à l'endurcissement. Reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de ton pays, Juda ? Mais Amatsias ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Joas, le roi d'Israël, monta, ils s'affrontèrent, lui et Amatsias. Et je vous laisse deviner qui a gagné. Juda fut battu. Je rajoute à plate couture, c'est pas dans le texte. Battu par Israël. C'est souvent après les grandes victoires qu'on se sent le plus fort. Et bon nombre de récits bibliques vont dans ce sens-là. Des héros de la foi qui, après avoir accompli quelque chose de grand, boum, tombent dans l'orgueil. Et là, Amatsias, il vient de mettre une rouste aux Édomites. Il dit, allez, maintenant, je vais aller dans ma lancée, je vais aller chercher Israël. Le royaume cousin, j'ai envie de dire. Il lui a donné des velléités. Et c'est souvent dans nos propres victoires qu'on trouve le plus, qu'on s'illusionne le plus sur notre confiance et sur notre force. Or, notre dépendance et notre confiance à Dieu, on a dit que le but c'est d'avoir un cœur attaché sans réserve. On ne doit pas avoir un cœur attaché à Dieu que lorsqu'on a besoin de lui, que lorsqu'on a une défaite, que ce soit un jour de victoire, un jour de défaite, ou même un jour ordinaire. Et là, le piège est sous le... Un jour où vraiment il n'y a rien d'extraordinaire. C'est dans ces jours-là que l'attachement de nos cœurs à Dieu doit être le plus manifeste. Très souvent, quand on passe une victoire extraordinaire, on a une bonne nouvelle, alors là, on pense spontanément à dire merci à Dieu. Quand on passe par une épreuve dure, et j'ai mentionné le décès de mon grand-père, on pense à prier à Dieu. Mais dans un jour ordinaire, où il ne se passe rien, c'est aussi là que se joue l'attachement de notre cœur à Dieu. Quelle triste fin pour Amatsias. Il avait commencé son règne en faisant ce qui est droit aux yeux de Dieu, certes à contre-cœur, mais en le faisant quand même. Et le voici, à la fin de sa vie, en train, plein d'orgueil, en train de chercher la guerre avec Israël. Les avertissements de Dieu n'ont pas suffi. Les avertissements du prophète n'ont pas suffi. Les avertissements de Joas, roi d'Israël, n'ont pas suffi. Rien ne suffit. Amatsias ne veut entendre personne. Là, je vous pose une question. Notre maturité spirituelle ne se jugerait-elle pas à la manière dont on est capable d'entendre les avertissements, d'entendre l'avis des autres? Pour Amatsias, rien ne suffit. Il repart en guerre et il subit une défaite cinglante et il va finir prisonnier et il va mourir dans l'anonymat le plus complet. C'est la fin du chapitre 2 Chroniques 25 que vous pourrez lire. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le cœur d'Amatsias était comme une pierre qu'on avait jetée dans l'eau. Mouillée à l'extérieur, mais sèche à l'intérieur. Un cœur attaché à Dieu, mais avec des réserves, et comme une pierre jetée dans l'eau. Mouillée en surface, mais sèche à l'intérieur. En conclusion, chers frères et sœurs, avoir un cœur attaché à Dieu, vous l'avez compris, est une bonne chose. L'avoir sans réserve en est une autre. Et Amatsias est un avertissement pour nous à ce sujet, dès l'Ancien Testament. On trouve dans le Nouveau Testament aussi bon nombre d'exemples d'avertissements de personnes qui étaient attachées à Dieu, mais apparemment pas sans réserve. En discutant avec Éléonore, elle m'a mentionné Ananias et Saphira. Ils ont fait partie de l'Église naissante, mais en eux, ils devaient avoir une part d'avidité, une part de et qui a fini par se révéler. Et vous connaissez leur histoire en Actes 5. Vous connaissez aussi dans Apocalypse la lettre à l'église de Laodicée. « Parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mais je te reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » L'église de Laodicée n'était pas froide, mais elle n'était pas bouillante, elle était tiède. Hier, j'ai fait du bricolage. Je me suis fait un café, je voulais faire du bricolage, j'ai oublié mon café. Je suis revenu, il était tiède. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, un café tiède. C'est exactement ça. Un cœur attaché à Dieu, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de la bouche. Aie donc du zèle et repens-toi, il n'est pas trop tard. Alors, dès l'Ancien Testament et dès le Nouveau Testament, encore aujourd'hui, avoir un cœur attaché à Dieu, mais avec réserve, je pense que c'est le plus grand des pièges qui nous guettent. Nous, un peu chrétiens, installés dans la routine de l'Église, installés dans la routine de nos vies, j'espère qu'on n'est pas sujet à un piège où on va d'un seul coup renier notre foi et partir en courant. Mais je pense que notre plus grand piège, c'est plutôt de s'endormir et de tolérer des petites idoles, des petites choses. Je pense que c'est le plus grand piège de notre génération de chrétiens dans un pays où on est installé, où on n'a pas d'oppression, on n'a pas de persécution, on est confortable. Et le piège est d'avoir un cœur attaché, mais pas tout à fait à Dieu. Et c'est là où je veux regarder non à notre société, je veux regarder non à aujourd'hui, mais regarder à Dieu lui-même. Nous avons pourtant toutes les bonnes raisons d'être pleinement attachés à Dieu. Et c'est avec ça que je veux vous laisser en conclusion. C'est ce que nous avons chanté déjà tout à l'heure. Mais je veux nous rappeler à nos cœurs que Dieu nous a créés, que Dieu nous a choisis de toute éternité, qu'il nous a aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui nous a rendu la vie, qui nous a réconciliés, qui nous a donné son Saint-Esprit, et qu'il veille sur nous chaque jour, et qu'il nous garde une place à ses côtés avec lui. C'est là que je pose la question de l'apôtre Paul, que nous faut-il de plus? Que dire de plus face à cela? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Que nous faut-il de plus pour avoir un cœur 100% attaché à Dieu? Et pour reprendre les différents points de ma prédication, un cœur qui obéit totalement et qui ne fait pas exprès d'oublier des poteaux, des idoles à droite à gauche. Un cœur qui met sa confiance en Dieu et en Dieu seul, et non dans ses propres forces, dans son armée, dans sa sécurité. Un cœur prompt à la repentance et à faire demi-tour quand il le faut, indépendamment des conséquences que cela pourrait avoir, même s'il faut perdre 3 tonnes d'argent. Un cœur qui écoute les avertissements que l'on reçoit, que ce soit de Dieu lui-même, que ce soit de personnes aussi variées qu'un prophète ou qu'un roi. Notre maturité se jauge souvent à notre capacité à écouter les avertissements. Dernièrement, un cœur qui sait célébrer et remercier Dieu dans la victoire et dans la défaite. Et quand il y a une victoire, il ne tire pas la couverture à lui, mais c'est un sujet de réjouissance. Alors un tel cœur ne peut pas venir de nous. Et ça sera mon tout dernier mot. Un tel cœur ne peut pas venir de nos propres efforts. Et je voudrais vous dire de ne pas repartir d'ici tout à l'heure la motivation à 300%, dire je vais arriver à avoir une telle attitude de cœur. Mais c'est seulement l'œuvre de Dieu en nous qui peut faire cela. Vous connaissez Ézéchiel 36, c'était une promesse que Dieu avait donnée. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pas essayer de réparer l'ancien tant bien que mal, de mettre un scotch, un boulon. Mais je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder mes règles. C'était une promesse de l'Ancien Testament. Dieu l'a accomplie en Christ. Et 2 Corinthiens 5 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et enfin, un verset de Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé ce travail en vous saura poursuivre cette bonne œuvre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est Christ, c'est Dieu qui fait cela en nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Alors, restons attachés sans réserve à Dieu, à Christ, là est la clé. Ayons un cœur attaché sans réserve à Dieu, à Christ. Vivons conformément à l'Esprit qu'il a mis en nous et laissons-le agir, afin qu'à tel, à la fin, on puisse dire « Bernardo fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel avec un cœur attaché sans réserve. Magali fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel avec un cœur sans réserve. Larissa fit ce qui est droit, etc., etc., avec un cœur sans réserve. Et que ce soit ni à la gloire de Bernardo, Magali ou Larissa, mais à la gloire de Dieu. Je vous invite à la prière. Éternel, nous confessons notre faiblesse, nous confessons notre incapacité à être dignes devant toi, à changer nos propres cœurs de pierre. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous en appelons à ta grâce, à ton secours, à ton soutien, pour renouveler le cœur qui est en nous chaque jour. Merci parce que le jour où, Seigneur, tu nous as fait de toi tes enfants, tu nous as donné un cœur nouveau. Toutes choses sont nouvelles désormais en nous. Et Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu continues de nous faire progresser, tu continues de nous sanctifier, de nous purifier. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous en sommes incapables et nous voulons, Seigneur, te dire que nous voulons être attachés à toi sans réserve, dans les moments de victoire comme dans les moments de défaite, comme dans les jours ordinaires, que nous voulons t'obéir totalement. Aide-nous, Seigneur, à voir où est-ce que nous tolérons dans nos vies des poteaux sacrés et des idoles. Apprends-nous, Seigneur, à savoir faire demi-tour quand il le faut et à te faire confiance pour toute chose. Seigneur, nous confessons notre besoin de toi et nous te supplions de venir en notre aide. Amen.